RCF.
Balayant de très nombreux préjugés, balayant des analyses hâtives, voire erronées, l'ouvrage que je présente aujourd'hui, écrit par Gilles Berru, « Vieillir dans la dignité », apporte de nombreuses analyses et de nombreuses réponses à cette question qui se pose à toutes nos sociétés, la question du vieillissement. À la notion de vieillissement, Gilles Berru, qui est gérontologue, qui a d'éminentes responsabilités dont peut-être il nous reparlera dans cette émission, à ces questions donc, Gilles Berru essaie d'apporter des réponses. Il ne pose pas seulement des problèmes qui sont aussi des problèmes fantasmés par beaucoup d'entre nous, mais il essaie d'apporter de véritables analyses sérieuses et fondées. Il nous parle depuis la Corse, je l'en remercie, et donc bonjour Gilles Berru.
Bonjour.
Nous allons donc dans cette seconde émission consacrée à la question de la longévité ou du vieillissement, peut-être approfondir davantage cette seconde notion que vous abordez à la fois avec humanité, mais aussi avec des références philosophiques, voire religieuses. La dignité, Gilles Berru, c'est aussi difficile ou presque plus difficile encore à définir que le vieillissement ou la longévité.
C'est dans un autre registre. Nous avons l'avantage avec la dignité d'avoir une histoire philosophique qui nous permet d'en suivre la trace, alors que c'est vrai que pour l'analyse du vieillissement par rapport à la longévité, nous sommes dans une matière en train de se construire et pour lequel, en fait, il faut créer le concept. Et pour la dignité, il y a une histoire philosophique et une histoire aussi religieuse de la dignité. Et ces deux aspects sont intéressants parce qu'ils participent de manière différente, en fait, à construire ce que l'on peut entendre par ce terme, dignité.
La dignité, on peut la définir de façon négative. La dignité, par exemple, Gilles Berru, vous écrivez que ce n'est pas la position sociale, ce n'est pas la fortune, ce ne sont pas les honneurs. Alors, vous vous référez d'une part à Sénèque, d'autre part au christianisme et à saint Thomas, puis à Kant. Commençons par Sénèque. Qu'est-ce que c'est que pour ce philosophe stoïcien romain, la dignité ?
Pour bien comprendre sa position, il faut en effet se rappeler qu'est-ce que la dignité dans l'Antiquité, en particulier à Rome. Pour être digne, il fallait être riche, dans une position sociale favorable et en santé physique. Il y a un sénateur qui, à la suite d'une chute de cheval, boitait. On lui a demandé d'arrêter d'être sénateur, parce qu'il ne pouvait pas être digne puisqu'il boitait. On voit bien que la dignité dans ce monde antique est liée à l'apparence sociale et physique.
C'est ce que dit d'ailleurs l'étymologie du mot dignité, déquête, ce qui est convenable, ce qui peut être montré, n'est-ce pas ?
Tout à fait, exactement, dignitatis. Et Sénèque se pose la question de la dignité avec son registre stoïcien. C'est-à-dire que la dignité doit être distincte des honneurs, de la fortune et de la position sociale, puisque ces éléments extérieurs à la personne, on ne peut pas les maîtriser. On ne fait que les subir. Et donc, il remplace cette dignité extérieure par une dignité sur laquelle nous avons la possibilité d'agir, dans une grille de lecture stoïcienne typique. Et donc, la dignité devient une conquête, un idéal que l'on acquiert par la moralité, la cohérence de sa vie et l'ascèse, tel qu'il le rapporte dans ses textes, notamment dans ses lettres. Et finalement, on a une dignité qui est une conquête aussi sur soi-même, qui devient un chemin de sagesse, de maîtrise, et on a l'impression que pour être digne, selon Sénèque, il faut avoir quand même quelques capacités personnelles pour pouvoir faire ce chemin de sagesse et avoir la chance de devenir finalement digne. Oui. Je dirais que au déterminisme social fort de la dignité de l'Antiquité, la dignité, selon Sénèque, devient quand même quelque part un sport de personnes qui peuvent le faire.
Oui.
C'est pour ça que dans ce contexte-là, l'émergence du christianisme va, si vous me permettez l'expression, va renverser la table.
Oui.
Va changer la donne, en fait. Alors évidemment que l'Ancien Testament, le Premier Testament, avait évidemment par dès le livre de la Genèse, avec cette créature à l'image de Dieu, donné le cadre d'une dignité incomparable de la personne humaine, image de Dieu, du Dieu créateur. Et donc cette question de la dignité liée au fait d'être était présente dans le Premier Testament, avec tout le registre du pur, de l'impur, de la loi,
oui,
pour ne pas altérer cette image. Et là, le Nouveau Testament, il va quand même plus loin, parce qu'il montre que celui qui est boiteux, qui est malade, qui est finalement indigne, en fait, il reste digne parce qu'il est l'objet de l'amour de Dieu et de cet amour qu'il a créé. Et que finalement, on se retrouve avec une dignité qui est quelque part déduite de l'essence même de la créature.
Oui, vous citez saint Thomas, des mots et des phrases bien connues. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et vous dites que saint Thomas affirme que la dignité de la personne humaine est indépendante et de la position sociale et du mérite qui peut être revendiqué par tel ou tel.
La dignité devient un don au même titre que celui de la vie. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a reçu ce don de la vie qu'on est digne, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on peut être sauvé si on n'a pas les mérites.
Oui.
Et donc, on a diamétralement, une position qui est inverse de celle de Sénèque. En apparence.
Il n'y a pas ce chemin, cette conquête personnelle de cette dignité.
Alors, on peut le dire comme ça. Après, quand on creuse, on s'aperçoit que, par exemple, chez saint Paul,
oui,
quelque part, il compare celui qui va vers son salut à un athlète mmh, des Jeux Olympiques. Oui. Mais on peut poser comme base que notre dignité avec le christianisme est liée au fait d'être et d'être fruit de l'amour de Dieu.
Oui, une créature de Dieu qui fait ce don sans discrimination, alors. Est-ce que je simplifie,
oui,
votre pensée ?
Non, pas, sans aucune discrimination. C'est ce qui explique d'ailleurs cet immense mouvement du Moyen-Âge,
oui,
vers des actes de solidarité qu'on a vu dans d'autres civilisations, mais pas avec l'ampleur qu'on va connaître avec les confréries, les œuvres de pénitents, les tiers ordres.
Les hôtels-dieux.
Qui vont développer les hôtels-dieux, qui vont développer les lazarets, qui vont développer. Voilà, on va au secours de celui qui est l'image du bon samaritain, de celui qui n'est digne que parce que tout simplement il est, même si extérieurement, socialement et dans ses mérites, il pourrait être considéré par d'autres indignes. Eh bien, en fait, il est celui à qui il est prioritaire, en fait, de manifester la dignité, parce qu'à travers la solidarité qu'on exprime, c'est notre propre dignité, finalement, qu'on défend. Et donc, et notre sécurité sociale, quelque part, est un avatar, avec son côté universel et de mise en commun des moyens, est un avatar, en fait, de cette image de solidarité née, non pas forcément de l'Église, mais lié à des mouvements de laïcs qui se sont mobilisés. Alors, ce n'était,
oui,
pas contraire à l'Église, bien sûr, mais l'Église, en termes de structure hiérarchique, ecclésiale, ayant cette relation, en fait, particulière à cette époque-là avec le pouvoir, n'est pas vraiment à la manœuvre en premier.
Oui.
Et on voit bien, d'ailleurs, que dans les naissances des tiers-ordres, des ordres religieux, oui, s'entremêlent beaucoup, en fait, de confréries, de pénitents, qui sont tout simplement des mouvements d'une foi vécue par des laïcs dans la vie, qui vont entraîner aussi les clercs, en fait.
Oui.
On a comme ça des mouvements qui viennent un peu de la base. Hein.
Oui.
On retrouve ça dans d'autres choses.
Alors, la dignité, telle que vous la définissez et telle que nous la trouvons, donc notamment au Moyen-Âge, ce n'est plus un concept philosophique stoïcien qui peut paraître très éloigné, très abstrait. C'est quelque chose qui s'enracine et qui se fait sur le terrain, en bas.
Oui, c'est une dignité qui se manifeste par des actes et des actes collectifs. On peut le dire comme cela. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on peut résumer la dignité en régime chrétien par cela.
Oui.
Parce qu'il est évident que l'exigence de suivre le Christ, l'exigence de répondre à l'appel, est entière.
Oui.
Et là, on va évidemment retrouver la dimension de cette mise en route de la personne, où là, il y aura certains accents de Sénèque qui vont retrouver finalement... voix au chapitre, et notamment dans une philosophie médiévale qui va redécouvrir les textes anciens, et parallèle à tout mouvement néoplatonicien que l'on voit, qui va s'exprimer aussi dans la philosophie au XIIe siècle, et qui va précéder la grande synthèse de saint Thomas,
oui.
il y a ce courant stoïcien qui va toujours exister à côté,
oui.
Et qui va être même promu dans les siècles après. Qu'on va retrouver finalement dans des réformes religieuses successives, vers la rigueur, vers l'ascèse, où cette dignité fondamentale, si on veut y répondre avec sérieux, là on se retrouve avec une quête, avec une ascèse, avec un chemin, pour lequel finalement ce que dit Sénèque n'est pas complètement hors jeu, et en tout cas est d'une très grande finesse.
Vous le montrez... assez rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de votre essai, mais notamment pour la période de la Renaissance, avec l'humanisme.
Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Dans cette période-là, où on va se reposer un peu la question de la personne qui va émerger, en fait, comme personne.
L'individu
et
qui émerge, oui.
L'individu, c'est ça. C'est l'émergence de la personne en tant qu'individu qui va reposer la question... avec aussi la rationalité qui va émerger dans la réflexion progressivement à partir de la Renaissance et des courants. Alors après, il y a tout le débat de la réforme qui va évidemment changer la donne parce qu'on sera sur d'autres aspects. Mais cette question-là va par contre réémerger de manière très forte au moment de la Aufklärung, de la philosophie des Lumières. Et notamment chez Kant.
Je vous propose, avant d'aborder Kant, quelques secondes pour écouter une chanson italienne qui paraît très joyeuse, très guillerette même, mais qui dit ce que l'on n'a plus lorsque l'on a beaucoup vieilli. A che vita bella, a quelle belle vie, dit Lucilla Galeazzi.
La. Dialogue. Monserrata Vidal.
Gilbert Ru, une tarentelle qui dit « Ah, vita bella, perché non torni più ?» Ce n'est presque pas la peine de traduire « Ah, oh, ma belle vie, pourquoi ne reviens-tu pas ? Tu mangeais des saucisses, tu ne peux plus en manger. Tu mangeais des cerises, tu ne peux plus en manger. » et il est minuit et je ne m'en suis pas aperçue. Cette chanson m'a semblé, par son rythme très allègre, dire les contradictions qui sont les nôtres face à la question du vieillissement. Mais revenons à quelque chose de très sérieux, revenons à Kant, Gilbert Ru. Alors, on définissait la notion de dignité, d'abord chez les stoïciens, ensuite par l'intermédiaire de saint Thomas. Vous nous avez parlé également du Moyen-Âge, qui traduit en action de charité, notamment sa conception de la dignité, puis l'humanisme de la Renaissance. Kant, le siècle des Lumières, y a-t-il une évolution de cette conception de la dignité qui se construit au fil des siècles pour l'individu ?
Une évolution ou une synthèse ? Il y a un auteur qui s'appelle Bernard Schumacher qui dit que, en fait, Kant opère deux gestes en même temps, l'universalité et la laïcisation. Enfin, on est surpris quand, notamment dans le texte sur la métaphysique des mœurs, quand il dit que, en fait, toute personne humaine est au-dessus de tout prix. Car en tant que telle, la personne doit être estimée non pas simplement comme moyen en vue des fins d'autrui, ni même en vue des siennes propres, mais comme une fin en soi. Il y a véritablement dans ce paragraphe qu'il achève en disant « Ainsi, il possède une dignité, valeur intrinsèque absolue. » Et on voit bien que la dignité chez Kant est un élément essentiel qu'on peut aussi percevoir dans un souhait qu'il a eu, c'était que sur sa pierre tombale, on mette une épitaphe et qui dit « Deux choses me remplissent d'émerveillement. » Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale en nous.
Oui, quelle belle phrase, c'est magnifique. C'est
une sorte de contemplation,
oui,
en fait.
Oui,
de se dire, mais en fait, l'être humain a en lui une loi morale. Et s'il est cohérent avec cette loi morale, alors il manifeste pleinement sa dignité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'inscrit aussi dans un projet qui est collectif. Et à la lumière de cela, on voit bien qu'on peut faire une synthèse de ce qu'on a dit en disant que finalement la dignité, qui est une et indivisible, a quand même deux aspects. Un aspect collectif d'une dignité qui nous est donnée parce que l'on est et qui se manifeste dans la solidarité normale par le fait que toute personne est digne. Et en même temps, la dignité peut être un projet personnel. Et à un moment, je dis, en fait, on est digne parce qu'on veut l'être.
Donc on retrouve un peu Sénèque, là, aussi.
Et oui, on retrouve aussi Sénèque, finalement. C'est-à-dire qu'en même temps, mais on retrouve aussi saint Paul.
Oui.
C'est-à-dire qu'en même temps que cette dignité qui nous a été donnée parce que l'on est, on a une tâche en tant que personne volontaire, vivante, possédant la loi morale en soi, qui est de manifester cette loi morale dans la cohérence de la vie, afin de pouvoir manifester la dignité, et donc une sorte de quête qui passe aussi par une ascèse parfois, qui passe en tout cas sûrement par une volonté.
Vous dites même, la phrase peut paraître surprenante, que l'on est digne si on veut l'être. Nous parlerons d'autres éléments tout à l'heure. Mais cela rejoint bien ce propos que vous teniez à l'instant. Une quête, un chemin, et pas seulement un don qui nous tomberait comme cela d'un Dieu bienveillant.
Oui. Et d'ailleurs, cette phrase a fait beaucoup réagir de personnes dans des retours des lettres que je reçois, des messages, des amis qui l'ont lu, qui ont été choqués en disant « Mais la dignité, elle est intrinsèque, c'est parce qu'on est digne. On n'a pas à gagner de dignité. » Alors, non, on ne fera pas grandir la dignité qui est issue tout simplement du fait qu'on est, parce qu'on est aimé de Dieu. Mais par contre, on pourra le manifester, alors non pas avec un collet monté et des mentonnades en disant que voilà, on est digne, regardez, je suis beau. Non, mais par la rigueur de la vie, eh bien, on donnera une sorte de lumière particulière au fait d'être avec les autres et qui manifestera pour les autres, en fait, leur propre dignité parce que ben, on a fait une partie de ce travail avec nos imperfections, etc. Mais ce n'est pas tellement la perfection qui compte là, au sens de sans faute, c'est le chemin à faire, d'être en route de ça et que cette volonté soit manifestée de l'être.
Donc,
et évidemment, une volonté qui n'est pas que des mots, qui est liée à une vie.
Oui. Donc, il y a ce chemin qu'il faut faire et qu'il faut vouloir faire. Mais vous dites également que cette dignité que l'on peut vouloir conquérir et que l'on conquiert parfois peut être perdue à cause de multiples facteurs, les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions politiques ou la santé qui la menace constamment. Et bien évidemment, c'est là que nous rejoignons la question de la relation vieillissement-dignité, vieillissement-autonomie-dignité.
Alors, le lien ne se fait pas uniquement quand on est malade.
Oui.
Il se fait aussi quand on a 65 ans, quand on est à la retraite, qu'on a du temps libre et que, au lieu d'aller au PMU ou à passer sa vie sur des écrans en ignorant ce qui nous entoure, on se dit que le temps qui nous est donné, qui est libre, on peut en faire quelque chose d'intéressant. C'est toutes les lettres de Sénèque que je cite qui montrent, où il dit d'une manière presque humoristique, mais c'est terrible, il dit « on est complètement fou ». Quand les gens nous demandent du temps, on leur donne.
Oui.
Mais le temps, on ne l'a qu'une fois dans la vie, c'est précieux. Il ne faut pas qu'on donne notre temps n'importe comment. Et quand on est le jeune retraité qui dit oui à toutes les injonctions pour être président d'association, pour être militant de ci et de ça, il ne s'appartient plus. Et donc, il perd son temps parce qu'en fait, il ne le maîtrise pas. Et ça, ce peut pas forcément être digne. Ça peut être évidemment intéressant en retour narcissique en disant « ben voilà, je suis président de l'association des collectionneurs de timbres ». Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous est finalement offert comme chemin. Et donc la dignité, elle passe aussi par cette manière d'occuper ce temps qui nous est donné, de retrouver une vie avec son conjoint, sa conjointe, de savoir être un facteur d'apaisement quand il y a des tensions entre les enfants, etc., etc. Et donc, on a véritablement, avant de parler de maladie, etc., on a dans ces 25 ans de vie autonome qui nous sont offerts, un sacré chemin de dignité qui nous est ouvert, pour lequel on peut maîtriser quand même des aspects, ou en tout cas faire des choix. Et ça correspond quand même à 90% des personnes âgées.
Oui, oui.
Et c'est intéressant de le dire.
Oui, vous citez donc Sénèque de La brièveté de la vie, une simple phrase, c'est pendant la vie entière qu'il faut apprendre à vivre et non pas justement lorsque minuit arrive et que l'on se rend compte de la brièveté de la vie et qu'on ne mangera plus des cerises ou des saucisses qu'on aimait tant, pour reprendre les termes de la chanson.
Tout à fait. Mais je n'ai rien à rajouter à ce que vous venez de dire, parce que je pense que je souhaite manifester le fait que le combat de la dignité est particulièrement important lorsqu'on arrive à un temps où notre emploi du temps n'est pas rempli par notre travail ou par des occupations multiples, mais qu'on se permet en fait une certaine vacuité de l'emploi du temps pour reprendre la conscience d'être. Et que là, c'est une occasion, en fait, de reprendre ce chemin de la dignité, la volonté de cette dignité, ce que je peux entendre en consultation des souffrances des personnes âgées qui sont en pleine santé, qui n'ont pas de maladie, voilà, mais qui sont complètement désœuvrées parce qu'elles n'ont pas repris le chemin de leur vie intérieure et personnelle, elles ne se sont pas donné cette liberté. Et là, il y a un enjeu considérable avec des addictions multiples pour essayer de combler un vide. Et moi, je pense que le combat est vraiment important sur ce sujet-là parce qu'on n'en parle pas.
Oui, parce que très souvent, quand on parle de vieillesse ou de longévité, ce sont ces images que nous avons évoquées dans la première émission qui surgissent. Ce sont aussi des images d'EHPAD qui ont fait scandale, bien évidemment. Mais on parle beaucoup moins de ce chemin vers la vie intérieure qui est nécessaire aussi pour acquérir son autonomie.
Et c'est là que les jeunes nous attendent.
Les jeunes nous attendent,
nous regardent pour voir si finalement cette sagesse qu'on a montrée en étant parents, au travail, en occupation, etc., c'est une vraie sagesse. Car si on enlève les oripeaux de l'activité sociale, est-ce que finalement on a cette dignité-là, cette vraie dignité?
Oui.
Et on est très attendu, et il n'y en a pas forcément énormément qui sont au rendez-vous.
Gilles Béru, la lecture de votre essai est hautement recommandable, car bien évidemment, nous n'avons pas parlé de tous ces sigles qui sont presque indéchiffrables aujourd'hui, GIR, EHPAD. Vous nous avez donné de la dignité et du vieillissement une image qui, j'ose le dire, peut-être est porteuse d'espoir, sinon d'espérance. C'est ce que vous souhaitiez, Gilles Béru, pour conclure cette émission?
Oui, pleinement. Je pense que on peut dire des choses très différentes sur le vieillissement que ce qu'on dit aujourd'hui. Et c'est peut-être pas neutre si on ne parle pas de cette dimension-là. Parce que finalement, on se retrouve avec une dimension qui est personnelle, qui est morale, et qui n'intéresse pas finalement beaucoup la vie sociale, les médias, la vie politique. C'est cette région-là qui est une sorte de no man's land en communication, mais qui est finalement pleinement notre vie, qu'il faut se réapproprier.
Se réapproprier notre vie. Merci Gilles Béru pour ce message, vraiment, je le redis, d'espérance. Et j'invite nos auditeurs à lire aux éditions du CERP « Vieillir dans la dignité ». Qui vraiment nous revigore et nous éloigne du fracas, parfois délétère, qui entoure la question du vieillissement. Encore merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.